Le marceau de sol, c'est moi. Celle qui m'accompagne bien, comme disait le monsieur à la grosse voix, c'est Audrey Pinchot. Salut Audrey!
Hello!
Merci d'être sur les ondes du 102.1 BLVD dans l'open mic. Nouveau show sur les ondes du 102.1. Depuis quoi? On célèbre quoi? Notre 5e, 6e, 7e épisode?
Techniquement, c'est pile le 11e.
C'est pile le 11e? Mon Dieu!
Ça passe vite, hein?
Ça passe vite.
Ça s'en vient quasiment une tradition, cette affaire-là.
Oui, exact. Quelle belle température on a actuellement. Je ne sais pas si vous en profitez de votre côté, si vous êtes toujours en vacances. Salutations aux enfants qui sont dans leur véhicule présentement avec les parents puis qui savent que dans les prochains jours, ils vont rentrer à l'école. Ça ne doit pas nécessairement être évident pour eux. Il y en a qui ont super hâte, puis il y en a d'autres qui n'ont pas hâte pantoute.
Ouais.
Mes gars, c'est plus de retrouver leurs amis. Mais les cours de français, c'est non pour eux.
Ah, mais il n'y a personne qui trippe nécessairement sur la matière, là. T'aimes pas l'école quand t'es jeune pour les cours, on va se le dire, là.
Ben, il y a des petites filles qui aiment ça, des petits gars aussi qui aiment ça, qui sont un peu plus studieux. Moi, mes gars, c'est plus du social. Ils aiment
social.
Le social.
Sportif un peu aussi, ou...
Sportif, oui, ils aiment tout ça. C'est 19 degrés sur Québec. On a une petite pensée pour vous autres. Profitez du reste de vos vacances. Maximum de 26. Avec l'humidex, ça va être une température ressentie de 31. Fait que ce sera pas facile pour les gens qui travaillent à l'extérieur. Minimum de 14. Demain, mardi, généralement nuageux, avec des probabilités d'averse en après-midi. Maximum de 25. Mercredi, c'est de la pluie. Maximum de 20. Jeudi, ensoleillé. Maximum de 22. Et pour terminer la semaine de travail, déjà vendredi 30 août, ce sera ensoleillé avec un maximum de 23 degrés. Puis d'ailleurs, pour parler de la rentrée des classes, on va parler avec SOS Nancy qui sera avec nous tantôt dans les prochaines minutes. J'ai hâte de la revoir. C'est une collaboratrice de longue date, SOS Nancy. C'est une fille que j'adore, une femme extrêmement brillante qui a une bonne entreprise, qui c'est du coaching familial.
Je me demande toujours comment tu commences ça, parce que tu peux pas étudier en coaching familial. Il n'y a pas de cours à l'école pour ça.
Éducatrice spécialisée.
Oui.
Elle saura te le dire.
Je trouve ça vraiment intéressant, du moins. Puis je regardais sa page Facebook. Tu sais, moi, je ne lui ai jamais parlé. Je vous ai écouté souvent. J'ai hâte de voir comment gère ça avec les parents, la rentrée. Tu sais, on parlait de pour certains petits, c'est anxiogène, la rentrée, parce qu'il y a peut-être un peu moins d'habileté sociale ou ils sont peut-être un peu plus gênés. Ils n'ont pas d'amis. Fait que, tu sais, ont rien à quoi s'accrocher par rapport à l'école. Comment tu gères ça comme parent?
Oui, puis SOS Nancy a pas mal de solutions. Il n'y a pas juste une solution. Elle en a plusieurs qui ont été essayées plusieurs fois, puis elle a obtenu du succès. Moi, celle où elle m'a gagné, c'était... j'avais un stress. Moi, mes gars s'approchaient beaucoup du lac chez nous.
OK.
Mon plus petit, surtout, l'eau ne lui dérangeait pas. En fait, l'eau l'attirait plus qu'autre chose. Puis, à un moment donné, son ballon est tombé dans l'eau. Puis, j'avais posé la question à SOS Nancy, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il s'approche vraiment. Tu sais, des fois, il est sur le quai tout seul.
Mm.
Ça me stresse. Puis, je dis tout le temps, reviens. Puis, il faisait pas attention. Là, tu sais, il y allait, puis ça ne dérangeait pas. Puis un soir, j'ai réalisé ce que SOS Nancy m'avait dit de réaliser, c'est-à-dire de le laisser tomber dans l'eau.
C'est fou, hein? Hé, mon Dieu, t'as dit ça, puis le cœur m'a comme serré.
J'étais sur le bord du feu, puis je voyais que mon gars jouait avec son ballon, puis là, son ballon est tombé dans l'eau. Donc, j'ai dit, c'est clair que quand il va embarquer sur le bord du lac, il y a une pente, là.
Ouais.
Il y avait encore une couche à ce moment-là, fait que c'était l'été, c'était super beau. Puis le ballon est tombé dans l'eau, puis c'est ça, il a décidé d'aller chercher son ballon, mais il a perdu le ballon parce qu'il n'était pas encore assez fort pour se retenir. Fait qu'il est tombé dans l'eau, puis mon beau-frère m'a regardé en me disant, mais qu'est-ce que tu fais, man? Ton frère est dans le lac, ton fils est dans le lac. J'ai dit, ouais, je sais. Il va apprendre à ne plus s'approcher du lac. Tu sais, c'était contrôlé, là. Mais c'était de le laisser tomber une fois.
Pour qu'il panique, puis qu'il apprenne lui-même.
Pour qu'il comprenne que s'il s'approche du lac, c'est dangereux. Puis s'il tombe dans l'eau, l'eau est froide, puis ça se peut qu'il ait peur.
Puis c'est contre nature comme parent, là. J'ai l'impression que surtout aujourd'hui...
On fait le contraire.
Oui, bien, on est super contrôlant de l'environnement. Tu veux, j'imagine, comme parent, éviter que ton enfant fasse les mêmes erreurs que toi aussi en vieillissant. Tu sais, c'est... Hé, mon doux Seigneur, j'aurais trouvé ça difficile.
Puis c'est quoi? Ça a été un succès. Ça a été un succès. Mon petit gars s'est plus jamais rapproché du lac sans nous demander la permission. Là, aujourd'hui, quand il s'approche du lac, il va toujours mettre sa ceinture de sécurité avant. Tu sais, il fait ses petites affaires. Mais ça a pris une SOS Nancy qui avait l'habitude, qui avait plusieurs techniques, qui m'a dit, Yann...
Fais-moi confiance, c'est ça.
Protège-le, mais laisse-le tomber au moins une fois.
Ça n'a pas créé de peur chez lui de l'eau?
Pas en tout.
Zéro pin bar?
Pas en tout. Au contraire, il est tout le temps dans l'eau, il trippe à mort. Mais il a compris que le lac pouvait être dangereux.
Hey, j'ai vraiment hâte de l'entendre.
Ouais. Ah non, il y a plein de petites techniques là, qu'elle peut montrer aux parents. Donc, elle nous jasera tantôt, SOS Nancy. Sinon, t'as passé un beau week-end? T'es-tu enceinte?
Non. Toujours pas. Peut-être à un moment donné. Mon chum m'aimerait que je dise ça. Le pire, c'est que c'est des conversations, mine de rien, que tu commence à avoir ici et là. Hein?
T'étais dans une yourte.
C'était un dôme, en fait. Moi, j'avais jamais vécu cette expérience-là. J'étais allée en Mauricie du côté du domaine des constellations, puis j'ai passé une fin de semaine vraiment dans un dôme un peu. Je vais appeler ça de luxe, là, mais en réalité, je dis de luxe parce que t'as des dômes qui existent. C'est vraiment des lits superposés, puis c'est juste un campement. Mais là, c'était vraiment un dôme avec toilette à l'intérieur, cuisine, tout le petit kit, là, tu sais, avec le lit puis la vue sur la rivière puis l'eau. C'était vraiment exceptionnel. Puis, tu sais, t'as comme un petit balcon privé avec ton spa, puis ton petit barbecue. Fait que tu peux vraiment passer tout le week-end dans ta petite bulle, si on veut. Et on est allé là, bon, en famille. Nous autres, on avait vraiment notre petite bulle à deux, moi puis mon chum. Puis,
on est allé là en famille, moi puis mon chum.
Fat bike. Fat bike et compagnie.
T'avais-tu un spa?
Cano. Ben oui, c'est ça. Il y avait un spa vraiment directement dans l'espace du dôme.
Fait que, hey, c'est propre, là.
C'est vraiment clean. C'est super le fun. Ça fait pas longtemps que ça existe. À peine un an, puis sont encore en développement par rapport à ça. Mais honnêtement, j'ai trippé sur l'expérience. Tu sais, t'as possibilité de faire du paddleboard, du kayak, canot, tout ce que tu voudras, sur la rivière Batiscan aussi. Honnêtement, c'est un spot magique. Puis tu sais, je veux dire, en Mauricie, moi j'adore Québec, là, mais c'est vraiment une entrée facile. Si tu veux sortir de la région, c'est pas trop loin, c'est à peu près 1h15, tu sais, c'est bien fait. Puis tu sais, on est allé un peu partout à Sainte-Thècle, le café des cinq sœurs, super mignon. Tu sais, on s'est pas mal promené, puis ça a fait du bien de comme décrocher dans la nature puis pas faire grand-chose, mettons.
Toi, t'étais dans le dôme Una.
Doua, je pense qu'il s'appelle. Ouais, c'est tout Una, Doua. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Là.
T'étais-tu dans le Phoenix?
Non. Il y a des petits chalets aussi. Hein. Il y a comme des mini-chalets pour deux. Il y en a pour quatre aussi. Puis t'as les gros, les chalets familiaux. Fait que non, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, ils sont pas trop proches. T'as quand même une super belle intimité. Non, j'ai vraiment capoté cette expérience-là. Tu sais, le genre de matin, je me suis réveillée samedi puis j'étais comme énervée. Je me suis réveillée à 6h30 le matin puis j'étais comme, t'aurais pu dormir. T'sais, mais là, j'ai vu la vue, t'sais, parce que le dôme est comme transparent. Fait que tu vois dehors, c'était écœurant. Fait que j'ai comme voulu aller prendre mon spa, mon café tout seul. Mon chum dormait encore à ce moment-là. Je suis revenue me coucher vers comme 10h30. J'ai redormi jusqu'à... T'sais, c'est comme ça a été ce genre de journée-là où tu fais rien, t'sais. Ah oui, puis je fais pas ça souvent. Fait que je suis comme encore super zen ce matin, super paisible, mais vraiment énervée d'être comme reposée. C'est niaiseux, là. Toi, j'ai entendu dire que ta fin de semaine a commencé forte.
Je sais pas pourquoi tout le monde panique avec ça, là.
Mais non, mais
c'est juste une intervention dans un gala de lutte. Moi, j'avais comme pas compris que les chaises, ça faisait partie des combats de lutte maintenant. Puis, Gros Goré, il a pris sa chaise, puis il voulait assommer son adversaire.
Steve.
Puis je l'ai pas pris, c'est Sullivan.
Steven Sullivan.
Ouais. Puis il voulait assommer son adversaire, puis je l'ai pas pris. Fait que je suis monté sur le ring, puis j'ai retiré la chaise.
Il a fait perdre son combat.
Ben, je dirais pas ça. C'est juste qu'il a pas été très attentif à son adversaire qui était derrière lui pendant qu'il me regardait.
Ouais, mais moi, j'ai comme vu des vidéos passer, puis il avait l'air en tipinouche d'avoir perdu son combat.
Il criait fort, mettons. Mais pour faire un petit résumé, Denis Gravel m'avait dit « Je t'invite à la NSPW, au 500e gala de la NSPW au stade municipal. » Puis en passant, la NSPW vous offre tout un produit de divertissement. Là. C'était la première fois, moi, que j'assistais à un gala.
Bon.
J'ai trouvé ça exceptionnel. Autant la foule qui embarquait dans l'aventure, autant les lutteurs qui réalisent des performances absolument incroyables. Et,
fait que t'es capable d'avouer que ça prend le moindrement un peu d'entraînement. Puis
j'ai jamais dit le contraire. J'ai juste dit que parfois, il y en a qui manquaient de souffle.
Okay.
Et c'est ça que Sullivan a fait. C'est ça qui a fait en sorte que Sullivan se fâche. Mais cela dit en passant, quand il est venu présenter son 500e gala ici, j'ai dit que certains lutteurs manquaient de souffle. Là, il a commencé à me challenger. Puis vous me connaissez, je recule jamais. Donc, j'ai tout simplement
c'est
dit
bon
à Sullivan...
C'est bon des fois de reculer. Hein,
Sullivan, c'est quand tu veux. Mais tu sais, les lutteurs, des fois, ils ont plein d'autres choses à faire. Puis des fois, tu sombres dans l'oubli.
Ouais.
Fait que ça me prenait quelque chose à faire où je pourrais peut-être revenir dans ses souvenirs, mettons.
Pour comme réattirer l'attention. Fait que c'est monté sur le ring.
Donc, j'ai été au Stade Canac. J'étais avec les auditeurs. On était bien assis. On jasait. Salutations. J'ai pris des photos avec certains auditeurs. Puis là, je leur disais, mettez pas ça sur les réseaux sociaux tout de suite parce que là, il va savoir que je suis dans place. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, Yann, Sullivan te cherche. Il est dans la foule. Puis il veut savoir t'es où. Puis là, j'ai dit, donnez-y des peanuts. Ou des bananes, là, pour le divertir, mettons.
C'est épouvantable.
Puis, il m'a pas trouvé. Puis après ça, okay. Il est allé faire son combat. Et là, je me suis approché du ring, mais j'avais été... Écoute, c'était peut-être un hasard, mais j'avais été au Dollarama me chercher un masque. Tu sais, un masque d'Halloween, là?
Oui, ben comme un masque de lutteur.
Puis je l'avais sur moi au Stade Canac.
OK.
Dans mes poches.
Plein de hasards.
C'est ça. Puis quand je l'ai vu prendre sa chaise, je me suis dit, je peux pas laisser ça passer. Normalement, ça devrait être un combat en bonne et due forme avec les poings, les mains, les genoux, les coudes et tout ça, les dents. Et il a trop abusé. Fait que j'étais allé l'empêcher de donner un coup de chaise. J'ai sacré la chaise à terre. J'ai enlevé mon masque. J'ai fait peur. Parce qu'il y a eu quand même une certaine réaction. Là.
Mm-hmm.
Je me suis rendu compte à quel point il était grand. Il était gros aussi, 230
livres. Ouais, c'est imposant, là. C'est...
J'étais à 185.
Tu te sentais petit à côté.
Il était à 6'3. J'étais à 5'11, 5'10. Et là, oh, il est arrivé pour me sacrer un coup de poing. Et l'adversaire qui était supposé se faire assommer a empêché Sullivan de me sacrer un coup de poing.
Et lui a fait perdre son combat.
Il aurait passé dans le vide parce que je me serais tassé, bien entendu.
Ben oui.
Mais,
t'es plein de réflexes, on le sait.
C'est ça. Puis là, Sullivan a perdu son combat. Donc, ça a l'air que c'était... On m'a dit que c'était comme la finale de ce gala-là. Fait que c'était comme le combat le plus important.
Absolument.
Du 500e.
Uh-huh.
Qui est quand même un chiffre important pour une organisation.
Oui, c'est ça.
Puis là, ils avaient fait pogner un.
Ah! Simple de même, on sait pas pourquoi, hein? C'est donc bien curieux.
Je sais pas pourquoi t'es forgé comme ça.
C'est là que tu vois que le gars comprend rien à l'autre.
Fait que bref, quand la gang de promo ici ont vu ce que j'ai fait, on a décidé, en discutant, de challenger Sullivan. Et on va faire un gala.
Pour une bonne cause.
Un gala spécial où tous les lutteurs de la NSPW, du moins ceux qui seront disponibles à ce moment-là, vont être présents. Il va avoir un gros gala de boxe. Ça va être directement au Centre Horizon le 27 septembre prochain. Il va y avoir plein de combats pendant toute la soirée. Tous les animateurs de Boulevard 102.1 vont être là. On va avoir un band aussi, rock, qui va jouer exactement ce que nous, on joue ici à la station. Puis le combat final, ça va être Gros Gorille Sullivan. Je devrais arrêter de dire gros gorille, ça va le motiver. Hein.
Mais j'ai l'impression que c'est... Tu sais, la rage peut faire bien des choses, hein, Yann?
Ça va être Stephen Sullivan. Compte-moi.
Compte-toi. T'as-tu un nom de lutteur? T'es-tu... Parce que là, tu réalises que le 27 septembre, c'est littéralement dans un mois. Là. T'as 4 semaines pour être assez entraîné.
On est le 26, là. C'est ouais. Le 26, puis là, c'est dans un mois, ça va être le 27.
Oui, c'est ça, exact. Okay.
Fait que là, je me cherche un protège-dents.
Oui.
Le plus important, des bobettes en cuir.
Tu veux vraiment des bobettes en cuir? C'est ça ton plan?
Ben, je pense que je vais confier mon costume à Pascal CV. C'est elle qui va décider. Elle me déteste tellement. Pascal m'aime tellement pas qu'elle devrait me déguiser pas pire. Et en troisième, c'est quoi je cherche? Donc là, c'est ça. Protège-dents.
Mais il faudrait un manager. Il faudrait quelque chose.
Protège-dents, bobette en cuir, puis un manager. Mon manager, coach, ça va être Reg. Parce que je sais qu'il y a déjà une historique contre Sullivan. Il a déjà sacré un coup de skate dans le dos.
Oh, OK. Fait que c'est Reg qui va te coacher à travers tout ça.
Sérieux, là, j'ai fait une étude en fin de semaine. Là. Je regardais toute mon équipe, la boulevard, là. Puis il n'y en a pas. À part toi, OK? Et Reg, il y en a. Ils m'ont tous trahi. Denis me trahit. CV me trahit.
Et pourtant, Denis aurait probablement été un sacré bon coach.
Ah, mais écoute, il ira avec Sullivan. C'est fini, moi puis Denis. Là.
Je comprends.
C'est fini, pour ce qui est de la lutte, du moins. Mais il va peut-être être là. Il va peut-être être là, qui sait? Après ça.
Ben là, il y a Véro, il y a Max.
Il y a Véro. Véro, c'est ma patronne. Fait que je peux pas demander ça à ma patronne. Tu sais, elle va dire, tu l'es, ce bâtard-là. Tu comprends que je peux pas accepter ma patronne.
Ah oui, c'est vraiment son genre. Ah oui, c'est vraiment Véro, ça.
Fait qu'il y avait toi qui est beaucoup trop gentille, puis il y avait Reg. Fait que ça va être Reg.
OK.
Puis toi, on trouvera quelque chose. L'hymne national, peut-être?
Oh.
Y a-t-il un hymne national?
Il n'y a pas d'hymne national à la lutte. Non, mais de toute manière, je vais être là pour encourager. Je vais certainement prendre beaucoup d'images. Ça, c'est sûr.
Oui, c'est le point de vente, les billets. Donc, ça va être pour le 27.
T'as-tu dit c'était pourquoi?
Ça va brasser. Ça va être pour la bouchée généreuse. Mm-hmm. Le gala s'appelle pour lutter contre la faim. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout l'argent que vous allez sortir de vos poches pour acheter le billet.
Ça, c'est malade.
Cette soirée-là.
C'est pas 50 % des billets, là, c'est 100 %
Merci à Gros Goré et toute son organisation de la NSPW d'avoir accepté ça, parce que je veux dire, ça implique des coûts, là, cette soirée-là. Donc, merci à la NSPW, merci à Boulevard d'accepter que tout l'argent que vous allez sortir de vos poches pour l'achat de billets aille aux gens dans le besoin à la bouchée généreuse. Puis merci beaucoup au Gravel de la bouchée généreuse d'avoir accepté ça aussi.
J'aimerais être ta maquilleuse, je pense.
Il n'y a pas de maquilleuse.
Ben, non, mais faut que tu aies l'air badass, tu sais. Mettons, Pascal te fait un costume, puis avec le costume, on va te trouver un masque, quelque chose, là. Ouais. T'es-tu le méchant? T'es-tu le fin? T'as-tu une idée de ce que tu fais dans la vie?
Je pensais être le bon. Honnêtement, là, je pensais être le bon, mais il y a tellement d'auditeurs qui rêvent de me faire fermer la boîte que je vais me mettre du côté des méchants.
Ouais. Pour vrai?
Ah ouais.
Mais là, ça te prend un solide costume, là.
Kevin qui dit « Salut Marceau, bien content de t'avoir jasé vendredi. Bien hâte aussi de voir ce combat-là. Comme j'ai dit tantôt, moi être là ringside, à la sécurité. » Merci, Kevin. Si jamais il essaie de prendre une table ou une chaise, Kevin, j'aimerais ça que tu l'empêches aussi. Christian, tu vas te ramasser en mankini. Ouais, avec Pascal, j'aurais pas de chance. Marceau, contact Eric, le pro wrestler, en plus grand gros que cette petite bébite à combattre devant toi. Oh boy, ça commence à brasser.
Ah, les gens réagissent. Il y en a qui voudraient qu'on fasse un genre de petit concours pour trouver ton nom de lutteur, là. Si vous avez des idées, 971-102, on est très, très, très preneurs.
Écoute, je vais peut-être faire tirer des billets. Puis, dans les prochaines semaines, bien entendu, puis on posera ces questions-là. Ça va être quoi mon nom de lutteur? Hannibal Marceau, mettons.
J'aime pas ça du tout.
Je pourrais rentrer avec un diable là, pour déménager les gros meubles.
Ouais, ouais, ouais.
Je pourrais rentrer sur le diable avec une camisole de force,
mm-hmm.
Puis un gros tape sur la bouche.
Ouais. C'est ça ma job, dans le fond, Yann. C'est t'empêcher d'avoir l'air débile, OK? Je viens de trouver mon rôle, là.
Ouais!
Hey, ça va être écœurant. Honnêtement, ça va être une super belle soirée. J'espère que vous allez y être. Oui, la gang de Boulevard va y être au complet, mais c'est vraiment la vente de billets qu'on a envie de faire mousser le plus possible parce que cet argent-là ira à la bouchée généreuse. Puis on le sait, là, c'est pas comme si on n'avait pas besoin. Il y a énormément de familles, de plus en plus, qui sont dans le besoin, qui ont besoin de nourrir leur famille dans le sens du monde. Puis c'est pas pour rien qu'on déménage la bouchée généreuse aussi. Puis qu'on veut, dans 2-3 ans, avoir une nouvelle bâtisse qui va être sur le sens du monde pour aider ces gens-là. Là.
C'est ça. Puis, je sais que les billets les plus chers, là, c'est autour de 50 $, mais ça, c'est ceux qui sont sur le bord des clôtures.
Ouais.
Ben, je vous garantis que je vais y fendre la face, là.
OK. Fait que ça va valoir la peine.
Fait que si vous voulez voir Sullivan se faire fendre la face...
Ça va te faire détruire, Yann. Pour vrai, va t'entraîner. Faites quoi, là?
Tu vois? C'est pour ça que je te veux pas comme coach.
C'est quoi? Non, mais oui, mais attends, je suis réaliste. Je peux prendre soin du show au pire des 3 prochaines semaines, mais va t'entraîner!
Les seules personnes qui sont de mon bord... C'est mes 2 enfants.
Oh.
Je te laisse entendre Isaac qui a envoyé un message clair à Sullivan.
J'ai vu qu'est-ce que t'as fait à mon père.
Attends.
J'ai vu qu'est-ce que t'as fait à mon père.
Je suis fâché.
Oh, petit cœur d'amour.
Il est fâché.
Il est fâché.
Ouais. Ils vont être là ce soir.
Ah ouais, ils vont t'encourager.
Oui. Mais je ne sais pas s'ils vont être de mon bord, par exemple, ce soir-là. Très honnête avec toi. Là.
Mais tu sais qu'on est tous de ton bord. Hein? On a beau dire ce qu'on veut. On a honte un peu de toi, là, mais je veux dire, il n'y a personne qui va te laisser tomber ici. Là.
Je ne sais pas.
Mais non, voyons, on adore Steve, mais Steve a sa gang avec la NSPW. Nous autres, on a un Marceau, on va essayer d'en prendre soin.
On me dit le Fossoyeur. Ah, j'aime ça.
Le Fossoyeur, comme nom de lutteur.
The Monkey Ranch, j'aimerais ça.
C'est tout des bons. Je vais noter ça, moi, tu vas voir. On va se garder ça en note.
Julien dit Yann demain. Je peux pas le prendre. Ça appartient à Dan, ça.
Mais on va
Dan
faire...
et son garage.
Checker bien ça. Je sais pas si... Peut-être que là, je parle à travers mon chapeau puis il y a déjà des plans, là, mais je vais récolter toutes vos suggestions de noms de lutteurs puis on fera un bracket puis vous voterez ces internets.
OK. Ben toi, tu vas être chargé de ça. C'est correct?
Je suis chargé de projet.
Mon déguisement, faut que Pascal t'aide parce que, c'est comme je te dis, ça me...
Je vais gérer ça avec elle.
Je veux que ce soit exceptionnel, cette soirée-là.
Parfait. Puis déguisement. T'as-tu des contres où on y va avec toute notre imagination?
Ben, tant qu'on ne voit pas les testicules, tout va bien.
Parfait, c'est noté.
OK.
On peut voir les
parce que des fois, il y a des costumes qui sont un peu... trop serré. OK, on arrête de dire des niaiseries. On revient avec SOS Nancy tantôt. Jérôme 50, les doubles sur les ondes de boulevard. À tous, un excellent lundi. Il reste quelques jours avant le début de l'école pour nos enfants et des parents qui sont exténués parce qu'ils ont eu les enfants à la maison toute l'été. Après ça, critiquer le travail des profs, hein? Ah, lâchez pas les parents. Puis pour ce qui est des enfants, ben, d'ici 3-4 jours, vous devriez tous être de retour à l'école. C'est le temps des coupes de cheveux, Audrey?
Oui, ben c'est le temps de se mettre beau. Hein?
Mon gars est en train de s'assassiner avec sa mère. Parce que là, mon gars, mon plus jeune, il a les cheveux longs. Il voulait les cheveux longs pour jouer au hockey parce qu'il m'a dit que les joueurs de hockey avaient les cheveux longs.
Ouais, ils ont toute cette passe-là.
Puis là, la mère dit non. Non, non, mes fils, n'auront pas les cheveux longs, ça prend une petite coupe propre.
Il y a comme un entre-deux, parce que les parents qui coupent les cheveux de leur petit gars aussi vraiment très court, une petite coupe-bol, une petite toupette en plein milieu du front, là. Il y a un bel entre-deux à aller chercher.
C'est ça, puis tu sais, je sais pas quoi dire à mon gars, c'est parce que je suis comme partagé entre, hein, c'est vrai que c'est beau des gars avec les cheveux longs qui jouent au hockey, mais de deux, la mère, elle veut que leurs enfants soient propres, que ses enfants soient propres pour l'école. Fait que je sais pas.
Moi, je leur ferais choix. Donne-y trois choix de coupe, là, puis ils choisiront.
Mais mes gars, on dit toi, papa, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, j'ai senti qu'il y avait comme.
T'avais une mission, là. T'avais de quoi ses épaules?
Il y avait comme une arnaque
ouais,
en
c'est ouais. ça, c'est
si
ça.
Je réponds, ils vont servir de cet argument-là contre leur mère. Fait que j'ai dit, réglez ça avec votre mère. C'est toujours plus facile. Quel plaisir de la retrouver. C'est SOS Nancy, Nancy Doyon, qui est en studio avec nous autres. Salut, SOS Nancy.
Hello, hello. Oh.
SOS oui. étant, on t'entend, hein, on t'entend. Okay, okay. SOS étant ton prénom, Nancy étant ton nom de famille.
Oui, c'est ça.
Audrey me posait une question tantôt. C'est quoi le parcours d'SOS Nancy avant qu'elle devienne coach familial?
Moi, à la base, je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé presque 10 ans en centre jeunesse avec les adolescents en troubles graves de comportement. J'ai été même famille d'accueil, 23 ans. J'étais famille d'accueil pour des ados qui sortaient du centre d'accueil puis qui venaient chez nous. Je n'ai eu deux sur du long terme. Puis après ça, j'ai été aussi famille d'accueil de dépannage pour des jeunes, des ados où ça sautait chez eux. Puis on espérait ne pas être obligé de rentrer en centre d'accueil. Puis là, ça venait décanter chez nous. Fait que j'ai fait ça pendant un bout. Après, j'ai travaillé en milieu scolaire, primaire, secondaire. J'ai fini par aboutir aussi en CLSC. Donc, j'ai travaillé en CLSC, maintenant les CIUS. J'ai fait ça pendant 7 ans.
OK, le bagage, il est très, très bon, présent. Oui. Non, mais c'est parce que je dis à Yann, coach familial, tu sais, t'as pas ce cours-là à l'école, là, puis on dit tout le temps qu'il n'y a pas de livre pour être parent, mais je me posais la question.
Bien, écoute, j'aime ça que tu poses la question parce que il en pousse de plus en plus des coachs familiaux. Puis, tu sais, coach familial, c'est pas un nom ou une profession qui est réglementée. Donc, Robert, qui est pompiste, peut décider
là.
Demain qu'il devient coach familial. Fait que, tu sais, n'importe qui peut effectivement s'inventer coach familial. Puis aussi, je vois de plus en plus d'intervenants qui ont une belle expertise, mais qui disent qu'ils font du coaching, mais qui n'ont aucune espèce de formation en coaching. Parce que moi, je suis formée, à la base, je suis éducatrice spécialisée et tout ça. Puis après ça, je suis allée me former en coaching d'affaires. Ne me demandez pas pourquoi j'ai abouti là. Mais c'est vraiment la base de toute mon approche au niveau du leadership éducatif.
OK.
J'avais pas l'intention de devenir coach d'affaires, mais la formation m'intéressait. Ma sœur, qui est maintenant mon adjointe, l'avait suivie. Fait qu'en tout cas, j'ai suivi cette formation-là, puis je me disais, hey, être un leader d'entreprise, puis être un leader de famille, ou être un leader de sa classe quand t'es prof, ça se ressemble. Fait que j'ai tout adapté un petit peu ce qu'on voyait au niveau du coaching d'entreprise à l'intervention auprès des enfants. Puis après ça, je suis allée me former en PNL, en programmation neurolinguistique. Je suis maître praticienne en PNL. Et c'est ça, fait que je vois de plus en plus d'intervenants qui disent « moi, je fais du coaching ». Écoute, je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants qui font du conseil parental, mais du coaching, c'est pas ça. Fait que, tu sais, ça vaut la peine pour les gens qui veulent faire affaire avec un coach familial. T'sais, moi, j'ai une école de coaching familial. J'ai la première école de coaching familial au Canada.
Wow.
Mais il y en a d'autres maintenant. Il y a d'autres formations en coaching parental et familial.
Est-ce que ça devrait être réglementé, selon toi?
Ben, en fait, je pense que ça pourrait pas être réglementé parce que, tu sais, le terme coach, t'as des coachs des coachs de vie, t'as des coachs de sport, t'as des coachs, tu sais. Je pense que le terme coach peut pas être réglementé, mais je pense que c'est quand même à la population de regarder c'est quoi l'expertise de la personne avec qui je fais affaire. C'est quoi, est-ce que cette personne-là a... Bien, tu sais, premièrement, tu sais, moi, en coaching familial, on va à domicile, puis on donne un coup de main aux parents pour analyser la situation, puis on les coach coachs dans leurs interventions. Ben, tu sais, Krim, avant d'aller chez quelqu'un puis lui dire comment gérer une crise, il faudrait peut-être que j'en ai géré une couple.
Exact.
Fait que, tu sais, c'est quoi la formation de cette personne-là, mais c'est quoi aussi l'expérience terrain?
C'est ça. Même les gens que tu formes, toi et ton équipe, les gens que vous formez, doivent avoir une expérience de base.
Oui, chez nous, on est très, très sévère dans les critères d'admission.
Les éducateurs spécialisés.
C'est ça. Donc, les gens doivent avoir...
Mais juste pour que t'aies des enfants aussi, là.
Oui, ben en fait, c'est ça. Ben non, t'es pas obligé d'avoir des enfants.
Non,
c'est pas nécessaire. C'est un plus, parce que quelque chose que tu comprends quand t'as des enfants, que tu comprends pas tant que t'en as pas. Tu réalises quand t'as des enfants à quel point on est manipulable.
Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire dans certaines applications de conseil.
Fait que, mais t'es pas obligé d'avoir d'enfants. Sauf qu'il faut que t'aies travaillé. T'sais, nous autres, on a des critères d'admission. Là, j'ai une formation d'ailleurs là, qui part très, très bientôt, mais on a des critères d'admission très serrés. Les gens, à la base, doivent avoir une solide formation, soit un diplôme d'État, là, éducateur spécialisé, psycho-éducateur, travailleur sociaux, psychologue. Ou encore, on accepte aussi certains amalgames de formation. Fait que, tu sais, quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, un bac par cumul en intervention psychosociale, un coach certifié. Puis là, ben, dépendamment de la personne avec ce qu'elle arrive, puis aussi on exige de l'expérience terrain auprès des enfants. Puis dépendamment du bagage avec lequel ils arrivent, ben il y a comme deux parcours. Ça se peut qu'il y ait plus de formation à faire pour avoir une certification. Sinon, tu sais, d'autres ils peuvent, tu sais, comme juste faire un niveau, le niveau de base.
Là. C'est quoi les plus grands problèmes pour lesquels les parents t'approchent?
Les enfants.
Oui. Merci, Yann. Je m'en doute.
Mes enfants.
Oh, j'adore. Ben écoute, règle générale, c'est des problèmes d'autorité. Les enfants qui n'écoutent pas. J'ai du mal à me faire écouter. Mes enfants s'opposent. Moi, je me suis spécialisée aussi, il faut dire, je me suis spécialisée à travers les années au niveau de l'opposition, des troubles de comportement, troubles d'opposition. Parce qu'il y a d'autres intervenants qui œuvrent en parentalité, mais qui vont souvent offrir des trucs en parentalité en général, tu sais, pour éduquer des enfants standards. Moi, ma spécialité, c'est les enfants qui sont pas standards. Fait que, troubles de comportement, troubles d'opposition, gérer un jeune qui a un TDAH, problème aussi de consommation à l'adolescence, rivalité fraternelle, les enfants qui s'entretuent.
Ça a-tu augmenté cette espèce de position-là? Parce que je sais pas toi, Yann, mais moi, quand j'étais jeune, là, je me posais pas bien à mes parents. Là. Je veux dire, c'était très strict à la maison, puis j'ai le sentiment que mon entourage, mes amis d'enfance, mais c'est la même chose.
Ouais.
Est-ce que les enfants ont pogné du pic avec le temps?
Bien, il n'y a pas d'études de trucs scientifiques qui démontrent une augmentation des troubles de comportement, mais n'importe quel prof vous dirait que oui. N'importe quel enseignant. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, moi, j'ai 53 ans et demi. Fait que, et quand j'étais jeune, t'en avais un tenant par classe, tu sais, puis le prof, le mettait dans le corridor. C'était pas compliqué.
On le connaissait, là.
C'est ça, on le connaissait, on le mettait dans le corridor, mais il y avait des classes spéciales. Maintenant, en tout cas, moi, quand je me promène dans le milieu scolaire, les profs rushent, là.
Mais les enfants sont plus éveillés aujourd'hui, en 2024, que nous l'étions dans les années 70, dans les années 80, 90. On n'avait pas autant accès au monde extérieur. T'sais, on avait notre petit monde, notre univers, notre chambre, nos amis qui étaient au parc et tout ça. Là, maintenant, c'est des TikTok, c'est du YouTube, c'est des YouTubers ici à gauche, à droite. Parfois, la délinquance est valorisée dans certaines vidéos. Puis les enfants tentent de reproduire ça à la maison. Moi, j'ai envie de t'amener sur un dossier. T'sais, autant que j'adore mes enfants, autant que je veux être père depuis que je suis très jeune, je me disais, je veux avoir des enfants. Là, j'en ai eu deux. Puis autant que je n'étais pas préparé à ça. Il n'y a pas de mode d'emploi. Puis on essaie le plus possible, Audrey, d'être parfait pour nos enfants. Puis on dit, tu sais, moi, dans 10, dans 15, dans 20 ans, lorsque mes gars seront plus éveillés, ils vont dire, hey, j'ai eu un bon père. Est-ce qu'il faut se l'admettre que c'est difficile d'être parfait? Puis il faut accepter d'être imparfait parfois?
Et tellement. Je pense que présentement, effectivement, les parents ont une pression énorme sur les épaules. Partout où on va, les parents sont comme surveillés, sous observation. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, si je faisais une crise à l'épicerie, là,
ouais.
Tout le monde me regardait, moi, avec un regard désapprobateur, puis moi, je me sentais mal, tu sais. Maintenant, si un enfant fait une crise à l'épicerie, là, tout le monde regarde qui? Le parent. Mm. Et peu importe ce que le parent fera, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va dire que ça n'a pas d'allure. Donc, tu sais, si le jeune fait une crise pour avoir une barre de chocolat, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui va dire, bien, quand il achète sa barre de chocolat, il me semble qu'il n'a pas d'argent, tu sais, capable d'y acheter certains. Si j'achète la barre de chocolat, il y a quelqu'un qui va dire, bon, garde l'autre qui négocie avec les terroristes, là, tu sais. Garde l'autre, là, tu sais, qui achète la paix. Si je lève le ton, on dit, hey, ça suffit. Hey, on parle doucement, un enfant. Si je me le mets en dessous du bras pour sortir avec, quelqu'un va appeler à des pigeons en disant, c'est sûr qu'elle va le battre. Je veux dire. Et si je me mets à sa hauteur pour dire, oui, écoute, je comprends, tu voulais avoir la barre de chocolat, je suis dans l'accueil de tes émotions, mais ou pas aujourd'hui, mon cœur. Ben, quelqu'un va, bon, garde l'autre qui radote avec son enfant. On la garde. Fait que peu importe ce qu'on va faire, il y a quelqu'un quelque part qui va juger que c'est pas la bonne affaire.
Fait que tu me confirmes que parfois, puis tu sais, l'open mic, ça sert à ça, là, on est en toute transparence. Tu me confirmes que parfois, quand je me couche le soir, puis j'ai comme des pensées, il me semble qu'aujourd'hui, j'aurais pu faire mieux avec mes gars.
Ouais.
Il me semble que, bon, la bonne nouvelle, c'est que j'en ai pas étranglé aucun, là, mais il me semble que j'aimerais que demain, ça se passe autrement. Tu sais, c'est dur de se considérer comme imparfait, comme père. Là.
Ouais, puis je te dirais que comme père et comme maman, on l'est tous. On l'est tous. Ça fait partie de la game. Et c'est là où tantôt, Audrey, tu disais, ben tu sais, il faut avoir des enfants pour être un coach familial. Oui et non. Quand on n'a pas d'enfants, on regarde les autres intervenir avec une espèce de regard où on se dit, hey, en tout cas, moi, je ne crierai pas sur mes enfants. Moi, m'a répété juste une fois. Moi, tu sauras que ce n'est pas vrai que je vais y acheter une barre de chocolat s'il fait du chantage. Moi, puis là, on a toute l'impression là, qu'on va donc bien savoir comment en fait, on juge nos parents pour la fois où ils sont, où ils n'ont pas été assez là, où ils ne nous ont pas assez écoutés. Puis quand on devient parent, on réalise que, ah ben non, la perfection, ça se peut pas, ça arrivera pas.
Y a-t-il des gens qui peuvent se sentir confrontés quand ils entendent des chroniques de SOS Nancy sur les trucs qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer notre relation avec les enfants ou essayer de corriger un comportement négatif de notre enfant?
Ouais, je le constate, je te dirais, là, régulièrement, je fais des vidéos, je fais des posts sur ma page Facebook, puis il y a des gens qui vont faire « Ah, ben c'est ça, je me sens encore coupable, vous nous jugez. »
Oh, okay.
Oui, c'est ça, qu'ils prennent ça personnel, vous nous jugez comme parents, parce que, tu sais, moi, j'aime bien observer. Une des choses que j'aime faire, moi, comme coach, c'est j'observe les interventions qui sont à la mode. Ce qu'on voit beaucoup faire, puis là, je fais est-ce que c'est vraiment si bon que ça? T'sais, puis là, des fois, je vais remettre les choses en question. T'sais, comme, bon, j'ai une vidéo qui fait énormément réagir où je parle de ben il faut faire attention à ne pas trop valoriser les enfants. On s'est fait martelé depuis des années qu'une des bonnes interventions, c'est le renforcement positif. Donc, quand les enfants font ce qu'on veut qu'ils fassent, leur dire bravo, super, champion, puis t'as de bien même, tu lui fais un petit tableau de motivation, puis lui donner des récompenses, puis moi, ça me gosse.
Comme avec les chiens, finalement.
Ben voilà.
Je fais ça avec mon golden.
C'est exactement, regarde, tu vois exactement où ma pensée est allée. Tu sais, je me dis, ben là, tu sais, si j'éduque mes enfants avec... Les punitions, c'est pas génial non plus, mais la survalorisation, tu sais, c'est comme chaque fois que tu fais quelque chose de bien, m'a donné un anane, ben c'est ça, j'ai l'impression qu'on dresse un chien.
Oui, bien, puis c'est surtout que moi, je me dis, en vieillissant, en grandissant, si t'as pas assez de valorisation dans ton travail ou que t'as pas de retour à chaque fois que tu fais un mouvement, ben tu seras jamais bien, tu seras jamais heureux.
Exact. On crée de la dépendance à la valorisation. Et là, écoute, tu comprends que les parents qui valorisent beaucoup leurs enfants en pensant bien faire, en disant « Bien, regarde, moi, je vais nourrir son estime personnelle », bien, quand ils entendent cette vidéo-là, ils sautent, t'sais, deux pieds d'eau, ou bien ils se fâchent après moi en disant « Non, 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 pour qui vous vous prenez, pour tata? » Ou bien c'est comme « Bon, c'est ça, on fait jamais rien de bien, peut-être. » Et il y a des gens que ça heurte. Et c'est triste parce que, tu sais, dans le fond... Je veux pas heurter personne, c'est pas l'objectif, mais en même temps, je trouve ça important qu'on réfléchisse sur nos pratiques. Et là, je suis pas en train de dire qu'on ne doit jamais valoriser les enfants. Mais tu sais, moi, quand le parent, c'est comme « Oh, bravo, je suis fière de toi, t'es bien assis. Hey, bravo, je suis fière de toi, t'as mangé, t'as goûté à ton brocoli. Hey, bravo, je suis fière de toi, tu tiens bien ta fourchette. Oh, bien, attends un peu, là, tu sais, tu seras fière de... » Ben oui, puis tu sais, je veux dire, je suis fière de toi... on peut-tu garder ça pour les grandes occasions? Là, tu sais, on peut-tu...
Est-ce que quand tu rencontres une famille, tu prends le temps de regarder un peu pourquoi le parent éduque son enfant de telle manière? Oui. Pourquoi, par exemple, c'est donc bien la valorisation qui est mise de l'avant? Des fois, j'ai l'impression que ça peut partir d'un certain passé aussi, t'sais.
Oui. Oui, effectivement, on constate. Nous autres, quand on va en coaching familial, je dis « on » parce que j'ai une équipe. Là. Quand on va en coaching familial, notre première rencontre, c'est justement l'idée, c'est de comprendre comment ça marche dans la maison, c'est quoi la dynamique familiale, puis le pourquoi du comment de chacune des personnes. Puis effectivement, souvent, on va constater que, par exemple, quelqu'un qui aurait grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de violence pourrait tomber dans l'excès inverse. Et ne pas oser être dans la fermeté, parce que des fois, les enfants ont besoin d'un stop ferme. Ose pas être dans la fermeté, parce qu'on a trop peur de tomber dans la violence. Le parent qui aurait manqué de valorisation pourrait tomber dans l'excès inverse et d'être dans la survalorisation de l'enfant. Le parent qui a manqué de liberté puis qui a grandi dans un milieu très, très, très sévère et rigide pourrait tomber dans l'excès de ne pas mettre du tout de limites. Et l'inverse est aussi vrai. Le parent qui aurait grandi dans un milieu qui manquait de limites pourrait devenir carrément très, très, très rigide et slash militaire. Fait qu'une des choses qu'on regarde, c'est comme, tu sais, papa, toi, dans quel genre de milieu t'as grandi? Maman, toi, dans quel genre de milieu t'as grandi? C'est quoi les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants? De quelle façon vous voulez transmettre ces valeurs-là? Parce que derrière nos interventions, la plupart du temps, il y a une valeur qui est derrière, tu sais. Fait que, tu sais, si j'ai un parent qui est très strict sur la coupe de cheveux, par exemple, il y a une valeur derrière.
Ben oui, c'est ça.
Il y a une valeur derrière. Mais... Et c'est intéressant de se demander c'est quoi la valeur qui est là.
Mais ça, Nancy, je comprends pas pourquoi les gens sont confrontés quand ils voient des vidéos où tu démontres des techniques que les parents pourraient essayer pour améliorer la relation. Tu sais, c'est comme si, là, c'est un peu philosophique, mon affaire, mais l'humanité s'est bâtie par le mimétisme. Puis les anciens étaient toujours priorisés dans une communauté parce qu'eux avaient déjà vécu toutes ces étapes-là. Ils avaient vu comment ça se passait, pouvaient un peu te rapporter un peu l'histoire, les bons coups, les mauvais coups. Puis si tu étais collé sur eux, tu avançais beaucoup plus vite parce que tu ne faisais pas les erreurs qu'eux autres ont fait.
Ouais.
Donc, quand il arrive avec quelqu'un qui est une coach familiale, qui a fait plusieurs années dans ce domaine-là, en interaction avec les parents versus les enfants... Toi, tu leur apprends des techniques qui ont été prouvées.
Oui, bien, les techniques, c'est pas pire, ça. Je te dirais, quand c'est une technique que j'enseigne, les gens, généralement, réagissent plutôt bien. C'est quand je viens ébranler des croyances, quand je viens remettre en question des interventions. Là, c'est là où c'est plus difficile. Puis, tu sais, tu l'as nommé tantôt, Yannick. Nos enfants, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et souvent, notre rôle de parent, c'est le rôle le plus important à nos yeux. Donc, on veut performer, on veut être bon. Parce qu'on est souvent conscient qu'on est en train de fabriquer des humains. Fait qu'on veut être bon. Et dans ce sens-là, on fait tout ce qu'on pense être le mieux. Fait que quand quelqu'un vient nous dire « Ouais, mais ton mieux que tu faisais depuis 3, 4, 5, 6 ans, finalement, c'est pas terrible. » C'est sûr que c'est dur à avaler. Et là, ben moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine, que j'observe depuis plusieurs années. L'humain a tellement de mal à se faire remettre en question dans toutes les sphères. C'est fou comment...
Mais ça revient à ce que je te disais. T'sais, moi, je jase souvent avec des communautés d'affaires, puis le réflexe que plusieurs hommes et femmes d'affaires ont, c'est qu'ils se greffent à des gens qui ont plusieurs années d'expérience. Puis pourquoi? Parce que ces gens-là vont leur faire avancer, t'sais, pas en 5 ans, 10 ans. En peut-être 2-3 rencontres, ils vont leur faire prendre l'expérience comme ils n'auront jamais eu. Ils vont cheminer. Donc, de voir que quelqu'un dit « Ah ben moi, j'ai regardé ta vidéo, ça fait 5 ans que j'essaie ça, puis là, je vois que cette technique-là n'est pas bonne. Je comprends pas, je me sens confronté. » Mais attendez un peu, on est là, toute la gang, pour s'améliorer.
Ouais.
Essaye-le. Puis si tu essaies tout le temps la même technique puis ça ne fonctionne pas, ben des fois, ça peut peut-être changer de technique.
Mais il y a ça aussi, il n'y a pas un enfant qui est pareil. T'sais, j'ai l'impression qu'on parle, mettons, de valorisation, mais j'imagine que les techniques sont choisies selon le petit mousse que tu as devant toi aussi. Il n'y en a pas un qui a le même caractère, la même personnalité.
Oui, puis là, on parle de technique depuis tantôt, mais il y a des techniques d'intervention, des trucs, des stratégies d'intervention, mais dans la parentalité, tout se joue dans la relation. Et la relation commence d'abord par, j'appelle ça l'observation-conscience. J'observe mon enfant. Mm-hmm. Tu as deux garçons d'âge rapproché qui ont des similitudes, mais qui ont aussi des différences. Fait que je trouve qu'une des premières jobs des parents, c'est d'observer et de réfléchir. Éduquer des enfants, c'est pas une question de... C'est pas juste une question technique, comme un chien, justement. Tu sais, si je vais... je fais un cours de dressage avec mon chien, le dresseur va me donner des techniques, puis une fois qu'il est dressé, c'est réglé. Mais les kids, c'est pas ça, là. Fait que, tu sais, ça change, ces petites bêtes-là, tu sais. Fait que... Et donc, il faut que je sois capable, comme parent, d'observer ce qui se passe pour mon enfant présentement, être capable de prendre la hauteur, puis c'est notre job de coach, prendre la hauteur, puis de se demander qu'est-ce qui génère les problèmes de comportement de mon jeune. Il a du mal à se coucher le soir. Bien oui, il y a des techniques qui existent, tu sais, avoir une bonne routine, il y a une technique que j'enseigne avec des jetons, il y a la technique de la chaise qui se rapproche de la porte. Fait qu'il y a plein de techniques, tu sais, de... Ouais, mais... Il faudrait que j'observe. Mon enfant a quel âge? C'est-tu un bébé? C'est-tu un enfant de 2 ans? C'est-tu un enfant de 6 ans? S'il est difficile à coucher, c'est-tu parce qu'il est anxieux? C'est-tu parce que je le couche au mauvais moment? C'est-tu parce que l'organisation de sa chambre ou l'endroit où sa chambre est, c'est anxiogène pour lui? Est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas que c'est l'heure de se coucher parce qu'il fait clair et qu'il veut encore jouer? Est-ce que c'est moi qui manque d'autorité? Est-ce que j'ai bien réservé? Est-ce que j'ai bien rempli son réservoir affectif dans la journée, où ben, j'étais pas tout à fait là, puis finalement, à l'heure du coucher, c'est sa façon de venir chercher de l'attention. Donc, tu sais, notre job de coach, c'est d'aider le parent à réfléchir, observer son enfant, comprendre qu'est-ce qui se passe pour lui, puis adapter son intervention en fonction du tempérament puis des besoins de cet enfant-là. Tu as des enfants qui ont besoin d'un cadre plus strict. Tu as des enfants qui ont, à l'inverse, dans un cadre strict, ils étouffent, puis ils vont s'opposer davantage. Ma fille avait un tempérament plus opposant et dans un cadre strict, elle avait tendance à déjouer. Plus il y avait de règles, plus elle avait tendance à les déjouer. Plus on était dans le contrôle avec elle, plus elle avait tendance à se braquer. Pas faire de l'opposition ouverte, là, d'essayer de contourner. Alors, elle, la meilleure stratégie, c'était vraiment de la responsabiliser. Dire, ben écoute, moi, je te suggère que ton heure de coucher soit autour de 8 heures. Mais si je voulais qu'elle soit couchée à 8h03, j'allais partir en guerre à tous les soirs. Mm. Si je laissais une marge de manœuvre, puis que je me disais, bon, pourvu qu'elle soit couchée entre 8h et 8h15, à se coucher à l'heure, qui, au moment qui lui convenait là-dedans, puis le rendu à 8h15, là, je pense que t'exagères, ma choupinette, là, tu vas être fatiguée demain. Puis là, ben si elle brêtait, le lendemain, elle était fatiguée, je dis, ben ouais, mais c'est pour ça qu'il faut que tu te couches le soir. Mais si je partais dans là, si tu te couches pas, dans 3 minutes, demain, tu vas te coucher plus tôt. Regarde-moi, ça aurait pas marché, là.
Comme ça aussi.
Donc, il y a énormément de techniques, puis tu sais, j'en ai donné un tantôt à Audrey que tu m'avais donné. Moi, j'avais peur pour le lac, là, avec les enfants, puis t'as dit, Yann, t'es extrêmement cruel à ce moment-là. T'as dit, Anne, supervise-le, mais laisse-le tomber une fois dedans.
Ouais.
Puis je me suis dit, mais voyons, qui est SOS Nancy? C'est une femme cruelle. Puis tu sais quoi? Le jour où j'ai vu mon gars s'approcher, puis j'étais persuadé qu'elle allait se planter, j'étais avec mon beau-frère sur le bord d'un feu, puis Isaac était encore en couche, c'était un soir d'été, il faisait super beau. Il a lancé son ballon dans l'eau, puis là, il est allé le chercher, mais il n'était pas encore assez fort pour se retenir dans la petite pente là, pour aller vers le lac. Il est tombé directement dans le lac. Mon beau-frère me regardait comme si j'étais Saddam Hussein là, en Irak. Puis là, il dit, mais tu vas pas le voir. Je dis, oui, je vais y aller. Mais je vais y aller en marchant. Puis là, j'étais allé en marchant, puis je l'ai sorti de l'eau. Mon gars, là, plus jamais il rapprochait le lac sans qu'on soit près de lui.
Il a compris.
Ouais. Puis aujourd'hui, là, quand il va sur le lac avec son frère, c'est toujours le premier à mettre sa ceinture de sécurité parce qu'il se souvient du temps où il était bébé puis il est tombé dans le lac.
C'est fou comment ça marque. Hein? Jusqu'à quel âge t'aides les familles par rapport à leurs jeunes? Parce que des enjeux de relations parents-enfants, tu peux en avoir toute ta vie. Là.
Exact. Nous autres, on va y aller peut-être jusqu'autour de 20 ans.
Okay.
20 ans, 20, 21 ans, tu sais, des fois, on a des
parents... Pour les gars, c'est 45, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Toujours plus long, hein? C'est
mais tu sais, c'est ça, 20, 21 ans. Je me souviens d'être intervenue avec un jeune homme qui avait 21 ans, puis lui, problème d'habileté sociale, nouveau milieu de travail. Tu sais, tout le long qu'il était à l'école, tu sais, un jeune qui avait de la misère à se faire des amis, puis tout ça. Puis là, ben, quand il est arrivé sur le marché du travail, là, son père s'inquiétait parce que là, il allait travailler, il revenait à la maison, il gameait, mais il faisait rien, il sortait pas, puis tout ça. Puis là, ben, tu sais, en discutant... Il dit, écoute, je sais pas comment me faire des amis, je sais pas. Puis là, dans son nouveau milieu de travail, il vivait du rejet un peu. Fait que, et père a proposé justement du soutien. Puis c'est le jeune qui m'avait entendu à la radio.
Ah oui?
Elle disait, ouais, mais elle, là, des fois, on l'entend à la radio, là, tout de même que ça serait correct.
Elle pourrait m'aider,
ouais.
Elle, là.
Fait que je suis allée, ouais, j'ai fait plusieurs rencontres avec ce jeune-là pour l'aider à développer les habiletés sociales et finalement, draguer un peu.
Tu parles des habiletés sociales. Faut dire que l'école commence cette semaine. Il y a bien des parents qui, aujourd'hui, s'en vont dans les rencontres, là, à l'école, voir comment ça va marcher. J'ai vu que tu avais une espèce de guide qui était en place, un outil spécial pour aider son enfant à développer justement ses habiletés sociales. Comment ça fonctionne? Parce qu'il y en a beaucoup des petits mousses là, qui ne l'ont pas pantoute et qui se ramassent tout seuls en cours d'école.
Oui, ça c'est drôle. Hein? Les habiletés sociales, on dirait qu'il y en a que c'est comme Obélix qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Là, ça a poussé tout seul. Puis d'autres, que, ben tu sais, je dis, moi, les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et, bon, ben moi, un de mes chevals de bataille dans la vie, c'est l'intimidation. J'ai quand même écrit quelques bouquins là-dessus. Puis je donne beaucoup de formations là-dessus. Puis, quand j'ai lu les bouquins, ils disaient qu'à partir du moment où les enfants ont ne serait-ce qu'un seul ami, les risques qu'ils subissent de l'intimidation viennent de diminuer de moitié. Plus un jeune a d'amis, moins il risque de subir de l'intimidation. Et si il en subit, ben ça va moins l'affecter. Ça va moins l'affecter, ça va moins nuire à son estime personnelle. Donc, ça vaut le coup que comme parents, on mette de l'énergie à enseigner à nos jeunes les habiletés sociales. Tu sais, les habiletés sociales, il y a entre autres les habiletés sociales de prise de contact. Est-ce que mon enfant sait aller vers les autres? Là, les Boswell d'écran, là, c'est quelque chose, je trouve, qui est hyper corrosif pour les habiletés sociales. Les jeunes ne savent plus appeler des amis. Ils ne savent pas comment on appelle un ami. Ils ne savent pas, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, on voulait jouer avec quelqu'un, là, on allait un cogner à sa porte. Nastar, tout se fait par les écrans. Mmh. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, les jeunes, on dirait qu'ils ne savent pas comment aller vers les autres. Quand on reçoit de la visite, là, est-ce que les jeunes, je les oblige à lâcher leur écran pour venir dire bonjour, regarder les gens un peu dans les yeux, sourire, poignée de main sans un?
C'est drôle que tu dises ça parce que adolescente, moi, il y a un moment où Snapchat devenait, ça commençait, là, puis c'était vraiment populaire, puis la moitié de nos discussions d'ado puis de crouse se faisaient par texto. Ce qui faisait que quand on arrivait à une première rencontre, une première date, on n'avait plus rien à se dire, puis on savait pas comment briser ce malaise-là, parce qu'on était habitués de se texter chacun dans nos chambres de notre côté, tu sais.
Exact. Exact. Puis c'est tellement plus facile, tu sais, ben via texto. Ben oui. Fait que, tu sais, mais ça commence à se travailler à la maison. Tu sais, quand c'est ça, quand il y a de la visite, tu es obligé les enfants à venir dire bonjour. Quand on va en visite, ben oui, je vais, tu sais, si tu es tout seul d'enfant avec une gang d'adultes, oui, je vais te permettre d'amener ta tablette. Mais je vais te demander que tu passes au moins une demi-heure à discuter avec les gens. Je vais te demander à l'heure du repas d'interagir, d'écouter un peu ce qui se passe, de venir dire ton mot. Tu sais, je veux dire, ça s'enseigne et ça s'entraîne.
Oui, moi, il y a un horaire à la maison.
Ah oui?
Ils ne sont pas libres de jouer tout le temps aux jeux vidéo. Ils peuvent le faire quand ils se lèvent le matin. Ils peuvent jouer une heure, deux heures ensemble entre frères. Puis après ça, ben, c'est dehors où ils jouent à d'autres choses en dedans. Puis sinon, c'est le soir, peut-être après souper, là, je te dirais qu'ils ont une heure. Fait qu'entre 18h et 19h, ils peuvent jouer aux jeux vidéo les deux. Mais après ça, c'est fini.
Puis tu sais, de dire, ben mettons, en visite, c'est pas permis. Tu sais, moi, ça, c'est quelque chose qui me heurte énormément quand je vais dans les restaurants et que je vois papa, maman discutent, chaque enfant sur sa tablette.
Parce qu'on abandonne facilement, je dis, j'accuse, là, mais on abandonne facilement. On est dans un restaurant, on veut passer un beau moment, on veut pas être énervé, nos enfants sont turbulents. Tout d'un coup, ils ont chacun leur téléphone cellulaire.
Puis ça se passe bien.
Puis là, tu peux jaser avec ta conjointe ou ton conjoint. Mais c'est sûr que quand tu es une personne toute seule à côté puis tu regardes la famille, tu te dis, c'est donc bien triste.
Ouais. Oui. Ben oui, c'est vraiment triste. Et je le comprends. Je le comprends, mais en même temps, tu sais, bon, si ça arrive une fois de temps en temps, je veux bien, tu sais, mettons, t'es allé au glissade d'eau, les enfants sont brûlés, on arrête de manger au resto, puis, tu sais, ils se reposent un peu, il n'y en a pas de problème. Mais si c'est systématique qu'au repas ou que quand on sort, les jeunes sont plugués sur leur écran d'un bout à l'autre, ça pose problème, tu sais. Puis quand moi, j'observe ça, tu sais, les gens vont dire, ah, tu es un Nancy à juge. Attends un peu, non, moi, j'observe. Je vois quelque chose. Je ne sais pas. Moi, je vois une photo. Là. La famille que je vois toute sur leur écran au resto, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur journée. Puis peut-être qu'ils ont passé la journée à jaser, puis qu'ils vont passer la soirée à jaser, puis que c'est juste pour ce bout-là. Je ne sais pas. Mais je
on
vois...
On a quand même le jugement plus facile. Es-tu d'accord? De plus en plus. Mais je comprends donc. Es-tu d'accord avec ce que les écoles vont faire du côté d'Oka? Puis je sais que de Rochebelle aussi à Québec, on va le pratiquer sur le fait de mettre les téléphones dans des petites pochettes qui vont s'ouvrir seulement à la fin des classes pour forcer les jeunes à socialiser dans les pauses.
Tellement. Tellement.
Ouais. Ils vont faire quoi rendu au cégep à Swasnancy? Il n'y en aura plus de petites pochettes.
Bien, ils vont avoir appris à socialiser, c'est okay. Ça l'affaire.
Je comprends, mais à partir du... Là, on va se pogner, là. On aurait dû commencer
j'étais curieuse,
ça.
Moi.
Mais à partir du moment où tu dis, OK, dans mon école, dans les classes, interdiction de cellulaire. Puis tu vois le cellulaire arriver, tu dis, ça, c'est ton premier avertissement. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton cellulaire? Tu vas le mettre dans tes poches? Parfait. Le lendemain, même affaire. OK, encore ton cellulaire. Deuxième avertissement, troisième avertissement. Tu sors. Tu t'en vas voir le directeur. Le directeur t'avertit. Demain, tu ne viens pas à l'école. Tu restes à la maison. Le parent est obligé de rester à la maison avec son enfant parce que son enfant a sorti le cellulaire. Techniquement, l'enfant ne devrait pas revenir avec son cellulaire à l'école.
Dans un monde idéal, cher Yannick, les profs feraient ça.
Moi, moi, je leur apprends à arriver un jour sur le marché du travail puis à apprendre qu'ils ont un boss.
Il y a un manque de staff.
Je suis d'accord,
aussi,
mais c'est parce que là, les profs, là, ils ont ça à gérer.
Entièrement
plus d'accord. Mille et une autres affaires. Et un téléphone, c'est facile en tabarnouche de l'ouvrir puis de le regarder en dessous de ton pupitre. Et là, les profs vont devenir les polices du cellulaire. Écoute, moi, là, j'ai travaillé en milieu scolaire. Moi, juste là, le phénomène de... Ils n'ont pas le droit de mettre de casquette dans l'école. Hey, moi, là... Faire la police de la casquette. Là. J'intervenais sur des Boswell de casquettes 42 fois par jour. Et les 42 fois où j'intervenais sur des casquettes, je n'étais pas en train d'être en relation avec des jeunes qui en avaient peut-être besoin. Fait que, tu sais, la police du cellulaire, là, ils ont d'autres choses à faire, les profs. Là. Ils sont là pour enseigner. C'est aux parents entraîner la capacité des jeunes à s'autoréguler par rapport aux écrans. C'est pas la job des profs.
Parfaitement d'accord. Mais bref, tu sais quoi, on va se garder ce sujet-là pour la prochaine fois. SOS Nancy, tu as des formations qui sont offertes pour les parents sur ton site internet sosnancy.com. Là, tu t'en vas-tu dans les autres pays là, enseigner le coaching familial bientôt?
Non, j'en ai pas.
Le Maroc n'est pas là cette année?
Non, j'en ai pas de prévu présentement pour cette année. J'espère bien.
Tu le souhaites.
Mais j'ai un voyage au Mexique, par contre, qui s'en vient, que j'organise avec plusieurs conférenciers. Un voyage plus pour les adultes, parents, mais pas juste les parents. Là, un voyage de croissance personnelle au
Donc,
Mexique.
Vous appelez ça un voyage d'affaires? Hein?
Ben oui.
Oui.
C'est parfait. Moi, j'entends vraiment ça.
Oui. On va donner des ateliers et des conférences.
Exact.
Mais, on va aussi profiter de la vie parce que ça fait aussi partie d'eux. Mais sinon, non, j'ai pas d'autres voyages outre-mer de prévu, sauf qu'effectivement, je donne beaucoup de conférences, de formations dans les écoles, dans les garderies. J'ai une équipe maintenant de formateurs qui donne mes contenus aussi dans les écoles. Donc, c'est la rentrée. On recommence drette là. Puis sinon aussi, j'ai beaucoup de formations web qui sont là, que les gens peuvent aller consulter et écouter au moment qui leur convient.
J'espère qu'on va se rejaser bientôt parce que j'ai encore mille et une questions.
Bon, bien chaud et charmé.
Oui, hein, moi j'ai des petits
coups de cœur. SOSNancy.com, merci.
Ça m'a fait plaisir.
Salut.
Aujourd'hui, chez PharmaPrix, ouvrez votre appli.
11h03, un excellent lundi à tout le monde en espérant que tout va bien pour vous. Si vous êtes à l'extérieur, peut-être un peu chaud pour travailler, mais on lâche pas, l'automne s'en vient. 21, avec l'humidex, ça pourrait être une température ressentie aujourd'hui de 26. Pour ce qui est de ce soir, partiellement nuageux, avec des probabilités d'averse à 30%. Demain mardi, généralement nuageux, 40% de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 25. Et là, le facteur humidex demain, c'est 32 comme température ressentie possible. Mercredi, c'est de la pluie toute la journée avec un maximum de 20. En soirée, un ciel dégagé, minimum de 8 degrés. Jeudi, ensoleillé, maximum de 22. Et vendredi, pour terminer la semaine, ce sera ensoleillé avec un maximum de 23 degrés.
Il y a quelques petits ralentissements qui commencent à se faire sentir sur Charest direction est à la hauteur de Robert Bourassa surtout. Et sur la 20 ouest, c'est un peu à la hauteur de Taniata qui semble y avoir quelques ralentissements. Guillaume Couture aussi à peu près à la hauteur de Chemin des Îles. Mais il faut le dire rapidement, ça roule quand même très bien sur le réseau routier. Il fait pas mal plus beau que ce matin. Moi, quand je m'en venais, vois-tu, c'était très, très brumeux au point où tu voyais pas grand-chose en avant de toi.
Toi, t'es-tu sur la rive nord, la rive sud?
Moi, je suis même pas à Québec même. Je suis à Deschambault, moi. Fait que je prends la 40 direction, ben là, quand je m'en viens à Québec, est, là, mais ouest, okay, pour retourner chez nous. Puis je suis vraiment un petit stop entre Québec et Trois-Rivières.
OK. Ben tu vois, quand j'ai traversé les ponts ce matin, il devait être aux alentours de 6 heures. Puis quand j'étais arrivé dans le secteur Charny-Chute-Chaudière, là, ouais, c'était la grosse brume. Là. C'était un mur.
Oh oui, mais tu vois rien avant
de
toi.
Un mur de brume. Puis là, je suis rentré là-dedans. Puis c'était des fines gouttelettes d'eau. Ça avait de l'air épais.
C'était impressionnant,
comme,
par exemple.
Ouais, c'était impressionnant.
J'aimais le mood un matin, moi.
Ouais, c'est ça. Moi, mes enfants dormaient dans le champ. Fait que là, j'avais hâte d'arriver parce que, tu sais, quand tout le monde dort, il n'y a personne qui te parle.
Ouais, c'est un peu tannant le matin. Hein?
mais bref, en fin de semaine, comment ça a été sur la route? Je sais pas si vous autres, vous êtes passés sur le pont en même temps que moi. Mais c'était l'asile. Fermer un pont, le pont de Québec était fermé. Ouais. Là. C'est triste en maudit, là, la fin de semaine. T'sais, on comprend qu'à Montréal, ça arrive souvent là, en raison du fait que bon, il y a beaucoup de réparations sur les routes et tout ça. Mais Québec, on n'est pas tant habitué à ce gros trafic-là un samedi ou un dimanche.
Oui, bien là, habituez-vous parce que ce ne sera pas la dernière fin de semaine non plus de fermeture pour le pont de Québec. Là, ce sont vraiment des gros travaux. Fait que c'est pas mal entamé pour quelques fins de semaine de plus de ce que je comprends. Là. T'es-tu, Yann, un bon voisin?
Je suis un très bon voisin selon mes critères.
Oh, OK, c'est flou, ça, là.
Je dérange pas ben ben.
C'est quoi pour toi un bon voisin, c'est ça?
Je dérange pas ben ben, puis je m'attends pas à être dérangé.
Ah ouais, OK. Ouais. Fait que t'entretiens pas vraiment de relations avec tes voisins.
C'est vraiment des relations de surface, des bonjour, bonjour, ça va bien, vous avez passé un bel été, blablabla. C'est vraiment des relations de surface, là où je suis à Val-Bélair.
Tu connais-tu leur nom au moins?
En Beauce, je connaissais deux, trois voisins avec qui je m'entendais plus, puis avec qui c'était possible de, tu sais, même qu'ils viennent chez nous, que j'aille chez eux et tout ça, mais je suis quelqu'un de très, très relax, tu sais. Si, tu sais, en fin de semaine, là, tu me verras jamais passer à tondeuse avant 10 heures le matin.
Ouais.
Si toute la journée, j'ai pas eu le temps de passer à tondeuse, il est 16h30, mettons, puis je vois que le voisin est en train de faire un barbecue, il n'y aura pas de tondeuse.
OK, t'es un voisin très respectueux.
J'essaye de l'être.
Mais connais-tu le nom de tes voisins?
Non.
C'est-tu... Ça me fait rire parce que...
Connais-tu le nom de tous tes collègues, toi?
Ben oui.
Dans Baptiste?
Absolument.
OK.
Tous mes collègues.
Toute la gang?
Toute la gang.
La nouvelle qui est rentrée à promo, c'est quoi son nom?
Natacha.
T'es bonne, OK.
je connais, je sais pas, pour moi, c'est une marque de respect. Je sais pas pourquoi c'est super niaiseux. J'ai tellement pas de mémoire dans la vie, une mémoire de poisson rouge, mais tout ce qui est comme un peu plus émotif, humain, je sais pas pourquoi ça me marque.
Ouais.
23 % des gens connaissent pas le nom de leur voisin immédiat. Voisin immédiat, là, je te demande pas le voisin au bout de la rue, là, ton voisin littéralement de maison. Là.
Ouais, je connais pas son nom non plus.
Du tout!
Ils se sont présentés, au début on s'est présentés, on s'est serré la main, des gens hyper sympathiques, belle petite famille. On a jasé, puis des fois on jasait de balcon en balcon, là, il était en arrière, puis on parlait.
Ouais.
Mais non, je connais pas leur nom.
Mais tu sais que c'est typique, paraît, des deux dernières générations, parce qu'avant, il y avait ce besoin-là de se partager des affaires, de s'entraider. Je veux dire, tout le monde se connaissait dans la rue. Puis c'est comme si, de plus en plus, on est un peu sauvage. On a notre bulle, on est moins attaché aussi à l'endroit où on est. Tu sais, tu recules, mettons, là, genre des dizaines, centaines, si tu veux, d'un an en arrière, les terres, les villages, les gens se côtoyaient beaucoup. Tandis que là, souvent, on va déménager plusieurs fois dans une vie. Ça fait en sorte qu'on s'attache moins à l'endroit où on est, donc aux gens qui nous entourent aussi. Fait que de ce que je comprends, toi, les services rendus entre voisins, ça te concerne pas?
Ça peut me concerner. Exemple, s'il vient me voir, il a besoin d'un outil, tout ça, j'ai aucun problème.
OK.
Ça me dérangera pas. Mais moi, aller demander un outil au voisin, ça arrivera jamais.
OK. Est-ce que tu, quand tu pars, mettons, en vacances, tu vas dire à ton voisin, « Hey, juste t'avertir, je suis pas là pendant trois semaines. » Zéro rien?
Non.
Ah! Moi, c'est peut-être parce que j'habite éloigné un peu, mais nous autres, ça fait encore partie. Puis il y a un sondage léger qui a été fait en fin de semaine.
Je suis au centre-ville de Québec. Là. Fait que tu comprends
ouais,
que d'aller
comprends.
Voir mon voisin au centre-ville de Québec pour dire « Hey, je libère mon appart pendant trois semaines. » Tu sais, la télé, tout le stock qui est à l'intérieur va être, à l'air lousse, là.
Oui, non, mais c'est plus vérifie pour que tout soit beau.
Je vais être au Mexique.
Mais de là, l'importance de créer des liens avec ses voisins. Il y a 39 % des répondants du sondage léger qui s'occupent de la résidence de leurs voisins quand ils sont absents. C'est quand même un 40 % là. Chez nous, là, on avertit. Si je pars trois semaines, je vais dire à mon voisin d'à côté, puis mon voisin d'en face, « Hey, si jamais il y a quelqu'un à maison, appelez-nous, c'est pas normal. »
OK, t'sais? Mais tu me fais réaliser quelque chose. Peut-être que je considère ça comme un non-dit. Mes voisins, moi, quand ils sont partis depuis plusieurs jours, s'il y a un véhicule qui arrive dans leur entrée, c'est clair que je vais vérifier ce qu'il fait là.
Tu vas regarder. tu sors tes poubelles, mettons?
Non, je fais rien.
Pas de service au camp de voisins. Il y a juste 13 % des gens qui font des activités avec leurs voisins. Ça, je comprends. Moi, je ne fais pas d'activité. Bien, je dis ça. En fait, c'est pas vrai. Nos voisins en face, nous autres, on les adore. Denis et Annie, je les salue. Ça arrive, c'est arrivé, tu vois, l'automne passé, qu'on se faisait un feu à maison, puis ils étaient dehors. Puis, hey, venez vous tirer une bûche, on va ouvrir une bouteille de vin, puis on a joué avec eux autres pendant l'après-midi. Mm. Mais de faire des activités, des sorties, non. Est-ce que tu... Bien là, j'imagine que toi, c'est un nom assuré, là. Possède une clé d'un voisin ou t'as déjà laissé la tienne à un voisin en cas de 12 % des gens
en
disent
ça m'arrivait.
Oui. Bien ça, tu vois, moi, je trouve ça intéressant aussi. Quand t'as quelqu'un de confiance là, près de toi, là, et il y a 40 % des gens qui ont vraiment aucune relation avec leur voisin, fait que tu fais définitivement partie de ces gens-là. Les chicanes de voisins.
Mais je pense que c'est la peur de déranger.
Oui, ça, je comprends ça. Je pense que ça se bâtit aussi, là. Ça se fait pas du jour au lendemain d'entendre bien que tes voisins, là.
C'est peut-être la peur de déranger qui fait en sorte qu'on fait qu'on va pas achaler le voisin. Ça va, Audrey?
Oui, ça va.
T'as-tu mis ton déodorisant aujourd'hui?
Je viens d'avoir un flash. Il y a une bulle qui m'a passé dans la tête. Je me suis dit, j'ai-tu mis du déo en matin?
Tantôt, j'ai senti une petite odeur. Je me suis dit, c'est-tu moi? Non, c'est pas moi.
Non, j'en ai mis. Tout est beau. Je sens le coconut. Tout est correct. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Je me suis dit, je chante à marde.
Mais pour en revenir à notre discussion, dans mon cas, moi, c'est la peur de déranger. Parce que tout ce que je fais chez nous, exemple, si je sors à 16h pour faire la tondeuse, je m'aperçois qu'il y a du monde à l'extérieur qui sont en train de faire le barbecue, qui sont bien relax, je passerai pas à la tondeuse. Mais tu sais quoi? Je m'attends à ce que la personne à côté de chez nous ait le même réflexe. Puis très souvent, je suis déçu.
Oui, mais non, mais ça, je te comprends. T'as-tu déjà eu une bonne chicane de voisin ou t'as dû intervenir avec un voisin
j'étais
ou partager...
C'était pas une chicane, là. C'était qui avait la plus grosse... la plus grosse patente dans ses culottes, là. C'est quand je suis arrivé à Lévis, je peinturais ma maison. Je l'ai refaite au complet à la maison, puis il fallait que je peinture la extérieure.
Okay.
La façade extérieure de la maison. Puis il y avait un couple qui restait à côté de chez nous, mes voisins immédiats, qui n'aimaient pas la musique que j'écoutais pendant la journée. Puis là, ils avaient comme monté leur système de son, puis ils me faisaient jouer de l'opéra pour me montrer que
eux
autres écoutaient de l'opéra.
Ça, c'est immature.
Fait que là, moi, je voulais montrer que j'en avais une plus grosse. Fait que je montais Metallica.
C'est ridicule.
Mais c'est la seule affaire qui est arrivée depuis que j'ai des voisins, en fait.
Nous autres, on a vraiment eu une chicane de voisins dont on parle encore. De temps en temps, quand on habitait du côté de Shannon. À un moment donné, on a un voisin, puisque nous autres, on habitait dans un quartier qui était vraiment en développement. Fait qu'on était comme un peu tout seul quand on est arrivé là. Pour te donner une idée, notre droite de maison, là, c'était un champ avec des chevaux. On adorait ça. Puis à un moment donné, il y a comme des maisons qui se sont mis à pousser comme des champignons. Puis on s'est ramassé avec un nouveau voisin, puis on est arrivé un soir à la maison. Puis le pire, c'est qu'en réalité, entre toi et moi, là, on louait. Fait qu'on aurait peut-être pas dû le prendre aussi personnel, mais on est du monde qui aime notre bois puis notre environnement. Puis à un moment donné, mon chum est arrivé de travailler à la maison, puis le voisin avait décidé que l'arbre sur notre terrain, ça faisait pas son affaire. Il a coupé l'arbre.
Sur votre terrain?
Oui.
Mais vous étiez locataire?
On était locataire. Fait que techniquement, c'était pas comme notre terrain, tu vas me dire.
Mais c'était pas ton arbre non plus.
J'ai appelé ma propriétaire pour y faire part d'à quel point on était en motadine puis qu'il venait de couper un arbre sur son terrain qui était comme le nôtre parce qu'on habitait là, tu comprends? C'est ce qui nous restait d'intimité, c'était ce petit arbre-là. Fait que on a perdu cet arbre. Et ça avait créé vraiment de bonnes frictions à l'époque. C'est le quart des Québécois qui ont déjà eu une chicane avec un voisin. Selon toi, les plus grandes sources de conflits?
Les délimitations de terrain.
Ça en fait partie, effectivement. Tout ce qui est non-respect de
le
terrain,
bruit.
C'est à 17 % que ça
dérange. Bruit.
Le bruit est à 32 %. C'est le plus fort. Le bruit, là, les gens sont bien... je sais pas comment je réagirais. Moi, je suis chanceuse, il n'y a personne de bruyant autour de chez nous. Là. Même avec les enfants, les gens sont vraiment très respectueux. Là. Mais il y en a qui s'énervent solide.
La plus grosse, c'est quoi? Laisse-moi deviner.
La plus grosse, c'est le bruit.
C'est quand la voisine est plus en forme que ta blonde. Le tableau de l'AI.
Ça doit être difficile.
Ouais. Regarde-elle, la maudite, t'as des petites fesses.
Non-respect des règles de copropriété à 15 % Déneigement, ça fait partie des sources de chicanes de voisins, le déneigement. Et le stationnement à 22 %
Déneigement, j'ai déjà vu, puis vous l'avez certainement vu passer aussi, parce qu'il y a des images à chaque année, des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Les gens qui partagent le même escalier, deux appartements, le même escalier, puis t'as le locataire qui déneige juste de son bord.
Ah, mais ça, je trouve ça niaiseux, là.
Parce que le gros tata à côté, il sort jamais sa pelle.
Ah, c'est
pas niaiseux. Mais en même temps, tu te dis, mais c'est quoi le moyen que j'ai de lui montrer que ça n'a pas de bon sens qu'il pèle pas son bord, là,
mais non, mais ça fait partie, je trouve, du bon voisinage. Tu sais, moi, mettons, mon voisin déneige pas pantoute. Je vais déneiger une fois ou deux pour le gêner. Pour qu'il réalise que, comprends-tu que j'ai pris de mon temps pour faire ton bord? Nous autres, on est dans un jumelé, là, puis notre voisin est extraordinaire, là. Ça va arriver quand tu vois qu'on n'est pas là, mettons, l'hiver, ou qu'on est super occupé, qu'il va faire de notre bord. Puis je te jure que quand j'arrive à la maison, puis je me rends compte que c'est pas mon chum qui a fait de notre bord, mais c'est Robert, bien, j'y texte, puis je suis mal, tu comprends? Puis dans ma tête, j'y en dois une, là. Mm-hmm. Je trouve que c'est une belle leçon de vie d'agir par le positif.
Ton chien jappe-tu?
Non, vraiment pas tant.
Les chiens qui jappent.
Ouais, c'est épouvantable.
Quand tu partages un quartier avec des gens qui sont pas capables d'empêcher le chien de japper, tu sais, eux autres, ils ferment, ils mettent le chien dehors puis ils ferment leurs fenêtres.
Ouais. Non, moi, ça, là, ça, c'est assez pour déménager. Éduque ton chien. Si t'es pas capable, non, ça, là, moi, dans ma tête, si tu veux que ton chien jappe, si tu veux pas de règles chez vous, déménage en campagne et cœur pas personne.
Mais c'est quoi tes solutions? Tu comprends? Tu peux aller le voir pour lui dire hey, « Excuse, ton chien jappe. » Mais lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse si mon chien jappe?
Éduque-le!
Puis là, toi, t'es chez vous, tu peux pas être dehors parce que le chien arrête pas de japper.
Oui, non, mais tu vas voir ton voisin. Je suggère forte... Je connais une bonne éleveuse canine.
Pour voici empêcher son de japper le chien?
Non, non, mais tu comprends, il y a moyen de passer tes messages
dans
de façon...
Dans mon temps, on leur coupait la...
franchement.
C'était quoi, dans les cordes vocales?
Oui, de quoi de même,
il y avait des petits chienlettes.
C'est épouvantable.
C'était des japeux, là.
Mais oui, ils mangeaient de bas de culotte.
Ils étaient plus capables de japper.
Oui, les chihuahuas et compagnie, là. Ouais. Mais des fois, il y en a qui s'en rendent pas compte, tu sais. Les voisins, des fois, tu te rends compte que c'est même pas volontaire. Mes parents, le voisin en arrière, quand j'étais plus jeune, avait un spotlight en arrière pour éclairer à court. Ça donne que spotlight, il arrivait direct dans ma chambre. Fait que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, des simples discussions, des fois, ça peut régler pas mal de problèmes aussi. Aimez-vous!
Aimez-vous les uns les autres. 11h16, on revient. Vous avez des choses à nous dire? 88-971-1021, c'est par texto.
Le Pit Stop avec Marceau et Audrey Pinchot.
Hey, ça va vite, ce show-là, Audrey?
Hey, sérieux, je disais. Ils disent quand on a du plaisir, ça passe vite. C'est ça la phrase?
C'est ça qu'ils disent.
Mais je pense. Je suis pas sûr que je l'ai bien dit, mais je pense que tu m'as compris.
D'accord. La vidéo dans laquelle je suis impliqué avec la NSPW. Quelque chose qui se serait passé vendredi. Est-ce qu'elle est en ligne présentement?
Je pense qu'elle est en train de se faire mettre en ligne. Fait que j'ai le goût de vous dire...
Les auditeurs veulent-tu vraiment voir ça?
Moi, en tout cas... Hey, sais-tu quoi, Yann? La bisbille gratuite évite de la bisbille dans ta vie. Fait que si les gens veulent se faire leur petit drama de la journée en t'observant, te mettre dans... Les pieds dans les plats, moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça.
J'en reparlerai tantôt avec Denis. Je pense que Denis n'est pas super satisfait de ce que j'ai fait vendredi.
Bien, lui, il s'attendait...
J'aurais aimé à ce que je reste assis dans les strades.
Bien, je dois te dire, Yannick, que vendredi après-midi, Véro n'était pas là. Puis moi, Yann, on a eu une discussion avec Colosse sur le fait qu'il pensait sincèrement que tu allais passer une belle soirée puis que tu allais faire des excuses publiques.
Non.
Puis j'ai dit à Yann, à Denis...
On s'excuse quand on a tort, Audrey, pas quand on a raison.
Est-ce que tu connais bien Yann? Mais il était vraiment persuadé. Fait que je pense qu'il va y avoir des questions pour toi, l'ami.
Bon, à suivre, mais cette vidéo-là, elle sera disponible sur notre page Facebook Boulevard dans les prochaines minutes, sinon les prochaines heures, les amis. Hey, je te souhaite de passer une agréable journée. On te réécoute tantôt dans le retour.
Oui, absolument. Ce sera Véro, moi et Max cet après-midi. Denis qui gère les kids et l'école. Il va être avec vous autres ce midi, par exemple. Je t'en souhaite une belle. Bon show.
Oui, Denis sera pas là.
Non.
Mais il va être là pour le petit top.
Fait que dis-toi comment c'est ton préféré. Il est ton préféré. Tu es son préféré. Ouais.
Tu sais qu'il a toujours eu peur que je te vole?
Pour vrai?
C'est déjà commencé, d'ailleurs.
Non!
J'ai 50% de toi.
Oui, c'est vrai.
Mais finalement, c'est moi qui vais te voler Denis.
Je pense que c'est ça qui va arriver.
Ça se peut. Hey, on se laisse là-dessus. Bye-bye.
Et salut demain.